Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition des 17h30, temps universel de ce jeudi 18 juillet 2019. John Lindon à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. La mobilisation contre Ebola se poursuit en RDC où le ministre de la Santé met en garde les hommes d'église et les ONG. Au Nigeria, au moins 6 morts dans une nouvelle attaque contre une patrouille de l'armée dans l'état de Borno. Au Soudan, ils étaient nombreux dans les rues de Khartoum pour rendre hommage aux victimes de la répression. Nous poursuivons notre série sur le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune. Comment cet événement a été vécu au Cameroun. Et puis les sports avec un gros plan sur la CAN avant la finale demain entre l'Algérie et le Sénégal. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. La mobilisation contre Ebola se poursuit en République démocratique du Congo, où le ministre de la Santé a mis en garde les hommes d'église et les ONG au lendemain de la décision de l'Organisation mondiale de la santé d'élever la fièvre hémorragique au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Le point avec Eki Abadou.
Ebola est une réalité. Ebola n'a rien de surnaturel. Ebola n'a rien de paranormal, a lancé le ministre de la Santé, lui-même médecin, lors d'une conférence de presse à Goma, au lendemain de la décision de l'OMS. Le ministre Oli Longa a en effet demandé ce jeudi aux pasteurs et aux prêtres d'adopter un comportement responsable face à l'épidémie et de la transparence aux ONG, maintenant qu'Ebola est une priorité mondiale. La décision de l'OMS n'a aucun impact à Goma, où les deux postes frontières avec le Rwanda sont restés ouverts ce jeudi. Un pasteur est décédé lundi après avoir été le premier cas diagnostiqué dans cette ville. Le ministre Ilunga a suggéré aux pasteurs des églises de réveil d'arrêter de toucher leurs fidèles pendant les cultes. Il y a eu 717 personnes guéries et la vaccination de plus de 164 000 habitants. Cela a permis d'éviter des milliers de morts, selon le ministre. Lavage des mains à l'eau chlorée et prise de température, les mesures de prévention sont les mêmes depuis le début de l'épidémie, le 1er août dernier.
20 militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés en juin dernier ont été libérés la nuit dernière. Ces militants précisent leur parti sont toujours poursuivis pour attroupements et manifestations illégales et devront comparaître libres. Ils avaient été arrêtés avec 36 autres militants du MRC et leur vice-président Mamadou Mota. Les 1er et 8 juin à Yaoundé, lors de manifestations non autorisées pour exiger la libération de leur président Maurice Kamto, qui est toujours en prison. Au Nigeria voisin, 6 militaires ont péri dans une embuscade djihadiste dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays. Au moment de l'attaque, les soldats se déplaçaient de Maïdougouri vers Damadourou, la capitale du Yobe, un état voisin. Eric Manirakiza.
Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont ouvert le feu mercredi sur un véhicule militaire près de Jacana, à 30 km de Maïdougouri. D'après une source militaire, le camion a été détruit et tous les hommes à bord sont morts. Après cette embuscade, les djihadistes ont attaqué une base militaire à l'extérieur de Jacana, mais l'assaut a été repoussé. La route de 120 km qui sépare Maïdougouri et Damatourou a été le théâtre d'attaques répétées. En décembre, au moins 13 soldats ont été tués dans les mêmes circonstances près du village de Kareto. Les djihadistes ont aussi lancé plusieurs attaques contre des civils sur la même route, tuant les voyageurs et brûlant les véhicules.
Au Soudan, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aujourd'hui à Khartoum en hommage aux manifestants tués dans la répression du mouvement de protestation contre le régime. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
En début d'après-midi, des centaines d'hommes et femmes se sont rassemblés en scandant des slogans pour honorer leurs camarades tués durant le mouvement de révolte contre le régime soudanais. Ce rassemblement a été organisé par l'Association des professionnels soudanais qui voulait rendre hommage aux martyrs de la révolution. Le 3 juin, une dispersion brutale d'un sit-in de manifestants avait fait des dizaines de morts. Cette manifestation survient au lendemain de l'accord sur le partage du pouvoir signé entre les généraux et les leaders du mouvement de contestation. Plusieurs points de désaccord subsistent et les discussions doivent se poursuivre demain.
Un député du Parlement libyen basé dans l'est du pays qui avait appelé à cesser l'effusion de sang entre camps rivaux a été enlevé et son mari agressé par un groupe armé mercredi à Benghazi, fief des forces du maréchal Khalifa Haftar. C'est ce qu'indiquent ce jeudi des parlementaires et l'ONU. En Tanzanie, le président John Magufuli a annoncé ce jeudi avoir ordonné aux autorités pénitentiaires de prendre des mesures pour décongestionner les prisons du pays, selon lui, indûment surpeuplées, notamment par des suspects attendant depuis trop longtemps un procès. M. Magufuli a visité en début de semaine la prison de Butimba dans le nord du pays. Cette prison, censée accueillir 900 personnes, héberge aujourd'hui 1000 condamnés et 925 détenus en attente de procès. Et puis, une étudiante qui se présentait à l'épreuve de physique du baccalauréat en Guinée a quitté précipitamment la salle d'examen pour aller accoucher, puis a repris l'épreuve moins d'une heure plus tard, après avoir donné naissance à un petit garçon. Et selon la formule consacrée, le bébé et la maman se portent bien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Iran annonce détenir un tanker étranger et son équipage soupçonné de se livrer à de la contrebande de carburant dans le Golfe après une succession d'incidents impliquant des pétroliers dans cette région sous haute tension depuis plus de 2 mois. Le navire citerne a été arraisonné le 14 juillet au sud de l'île iranienne de l'Arak. De l'Arak, donc, parfois aussi appelé l'Arc, dans le détroit d'Ormuz. C'est ce qu'indiquent les gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, sans préciser ni le nom du bateau ou son pavillon. Un signe d'espoir au Yémen, un accord de principe a été trouvé avec les rebelles houthis pour reprendre une aide alimentaire dans des zones sous leur contrôle. Au Yémen, donc. Bagassi Koura.
L'annonce a été faite au Conseil de sécurité de l'ONU par le patron du Programme alimentaire mondial, David Beasley. La livraison de cette aide était suspendue depuis le 20 juin après des accusations de détournement par les rebelles de l'aide destinée aux familles yéménites. Dès que l'accord sera signé, le Programme alimentaire mondial sera en mesure d'apporter rapidement des vivres à Sanaa, la capitale contrôlée par les Houthis, a souligné David Beasley. 2/3 des 30 millions de personnes vivant au Yémen sont en situation d'insécurité, a rappelé le responsable de l'organisation basée à Rome, opposant les rebelles Houthis soutenus par Téhéran aux forces gouvernementales. Appuyé par une coalition militaire amenée par Riyad, le conflit au Yémen a fait en 4 ans des dizaines de milliers de morts, dont de nombreux civils, selon diverses organisations humanitaires. Environ 3 300 000 personnes sont déplacées.
Le vice-président américain Mike Pence annonce ce jeudi que les États-Unis allaient imposer des sanctions contre des dirigeants de 2 milices irakiennes liées à l'Iran. Je vais être clair, les États-Unis ne vont pas laisser des milices soutenues par l'Iran reprendre la terreur, a-t-il déclaré lors d'une conférence à Washington sur la liberté religieuse, sans préciser les noms des individus et des groupes visés. Et puis la populaire application russe FaceApp, qui permet en quelques clics de se voir vieilli, suscite des mises en garde des responsables politiques aux États-Unis. Un sénateur appelant même la police à enquêter sur les risques pour la sécurité nationale et la vie privée. Créée par la société russe Wireless Lab, cette application, proposée aussi en version gratuite, existe depuis 2017, mais connaît un regain de popularité grâce à son filtre vieillissant le visage. FaceApp est actuellement l'application gratuite la plus téléchargée sur Google Play avec 100 millions d'utilisateurs. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOAfrique et voafrique.com. Actuellement, le journal de la CAN.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Nous sommes à la veille de la finale de cette première CAN à 24 équipes. L'Algérie attend un deuxième sacre continental depuis près de 30 ans. Son premier et seul titre jusque-là remonte à l'année 1990 où elle a été sacrée à domicile. Le Sénégal, lui, n'a pas encore une seule étoile à son palmarès dans la CAN et jouera sa deuxième finale de CAN 17 ans après. Les attentes sont donc énormes de part et d'autre. Les Lions de la Teranga n'ont essuyé qu'une seule défaite dans cette CAN, il s'était face au même Fenech, vainqueur 1-0 en phase de poule. Pas de quoi faire peur au coach sénégalais et ses poulains. Aliou Cissé.
Phobie, c'est trop dit. On reste dans le cadre encore du football et c'est un faux pas, j'ai envie de dire, contre l'Algérie. Mais je crois que ce match nous a permis de nous remobiliser, nous a permis de faire notre talk history. Nous respectons l'Algérie, mais comme je dis, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Nous sommes en finale déterminés à la gagner, tout simplement.
L'Algérie a la meilleure attaque de ce tournoi avec 12 buts inscrits. Le Sénégal, lui, a la meilleure défense. Un seul but encaissé. Les deux équipes comptent chacune sa star. Sadio Mané, côté sénégalais, possible futur ballon d'or africain, auteur de 3 buts dans le tournoi, et Riyad Mahrez, qui a envoyé l'Algérie en finale de cette CAN avec un somptueux coup franc inscrit en demi-finale contre le Nigeria, sa 3e réalisation dans le tournoi. C'est donc aussi une finale entre les deux pensionnaires de la Premier League anglaise, même si le coach Cissé privilégie le collectif.
Aujourd'hui, que ce soit Riyad, que ce soit Sadio, ils sont... En tout cas, Sadio Mané est concentré sur gagner la finale. C'est un garçon aujourd'hui qui a gagné la Ligue des Champions et aujourd'hui qui se retrouve en finale de la CAN. Il n'y a pas de débat, le débat n'existe pas aujourd'hui. Je crois que ce qui est important pour Sadio, c'est de bien jouer ce match-là, gagner cette Coupe d'Afrique-là et l'amener à son pays qu'il attend depuis pratiquement les indépendances. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus important qu'un ballon d'or.
Cette finale a aussi un goût particulier pour les deux sélectionneurs. Djamel Belmadi et Aliou Cissé sont tous les deux nés en 1976, à un jour d'écart. Le premier à Champigny, le second au Sénégal avant d'atterrir avec sa mère dans la ville du sud-ouest de la région parisienne à l'âge de 9 ans. Plus tard, Belmadi est parti se former au PSG, Cissé à Lille, avant de lui aussi jouer au PSG. S'ils ne joueront jamais dans la même équipe au même moment, ils se retrouveront sur les terrains de France qu'ils ont écumés pendant près de 10 ans. Cette opposition continue cette fois-ci en terre africaine et en tant que coach. Djamel Belmadi, sélectionneur de l'Algérie.
C'est une ironie du sort extraordinaire de se retrouver, nous, deux enfants de Champigny-sur-Marne. C'est de là dont on vient. Il faudrait voir dans le passé si une chose comme ça s'est déjà produite. C'est quand même une compétition internationale de haut rang. On a eu l'habitude de jouer l'un contre l'autre dans les catégories de jeunes. On a grandi dans la même ville de la région parisienne. Donc c'est vrai que c'est exceptionnel de se retrouver nous deux à la tête de nos équipes nationales respectives et de jouer cette finale. Donc c'est vrai que ça a un goût particulier.
Cette finale Algérie-Sénégal est bien évidemment l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
De tout temps, les finales n'ont jamais été des matchs comme les autres. Même lorsque les équipes qui la disputent se sont déjà affrontées en début de compétition, comme c'est le cas pour ce Sénégal-Algérie, dont la première manche en phase de poule a vu les Tunisiens dominer aisément les Lions du Sénégal. Au contraire, dans de telles circonstances, le vainqueur du match précédent resserre ses boulons et le sort de la finale obéit à un scénario nouveau. L'histoire de la CAN est riche de situations diverses. Le Congo-Kinshasa, battu par le Ghana en phase de poule, prit sa revanche en finale à Addis Abeba en 1968. Par contre, l'Algérie puis l'Égypte, facile vainqueur respectivement du Nigeria en 90 et du Cameroun en 2008, confirmèrent leur victoire en finale, mais à l'arraché. Le plus grand renversement de situation de tous les temps est à mettre au profit de l'Allemagne face à la redoutable équipe de Hongrie de Ferenc Puskás. Laminée en poule par le score sans appel de 7-3, elle gagna la Coupe du Monde 1954 devant le même adversaire avec la complicité de la météo. Score final, 3-2, le hold-up du siècle. Alors, au niveau des forces en présence, que nous réserve cette finale? Certains dans le camp sénégalais s'inquiètent de l'absence du défenseur central Koulibaly suspendu. Il se rappelle qu'au contraire, cela peut motiver son remplaçant en quête de reconnaissance. Cette absence peut aussi amener le coach Aliou Cissé à adopter un dispositif de contre avec marquage haut plus efficace lorsqu'on rencontre une équipe créative comme celle d'Algérie. L'impact physique pendant les duels pouvant dérégler la machine offensive algérienne et la faire retomber dans ses travers traditionnels, en particulier la nervosité. Dans tous les cas, l'équipe qui marquera la première aura fait un grand pas vers la victoire, sous réserve d'une utilisation impartiale de la VAR. En attendant, trêve de supputation et place à la réalité du terrain. À bientôt.
C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Lyndon en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour et on commence par Ebola en RDC. L'Organisation mondiale de la santé vient d'élever la fièvre hémorragique Ebola au rang d'urgence de santé publique de portée internationale. Sur le terrain, la mobilisation contre Ebola se poursuit dans le pays. Le ministre de la Santé a détaillé son exigence de transparence envers les ONG et partenaires impliqués dans la riposte anti-Ebola, notamment UNICEF, MSF, Oxfam. Eric Manirakiza a joint RDC, le directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences, le docteur Ibrahima Sossé-Fall.
La déclaration d'urgence de santé publique de portée internationale est basée sur l'évaluation du risque et la possibilité de propagation de l'épidémie en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, cette déclaration s'accompagne de recommandations en termes d'action à mener au niveau du Congo, mais aussi au niveau des pays voisins, en termes de prévention, de capacité de gestion, mais aussi de partage d'informations, y compris l'information sur le risque. Les actions du terrain continuent, les priorités n'ont pas changé. C'est toujours donc d'interrompre la transmission par une investigation, une détection précoce, une capacité à isoler, à traiter les cas, à prévenir la transmission de l'infection aussi bien dans la communauté que dans les formations sanitaires.
Vous avez personnellement la charge de lutter contre Ebola. Quels sont les défis sur votre chemin?
Le défi numéro un a été le défi sécuritaire. Nous sommes dans une zone qui est le lieu d'un conflit qui a duré plusieurs dizaines d'années, où il y a plusieurs groupes armés, où l'accès à certaines localités est parfois très difficile du fait de la sécurité. Nous sommes aussi dans une zone très vaste où les populations se déplacent. Donc, très souvent, il y a beaucoup d'activités économiques. Et l'autre défi aussi, c'est un système de santé qui n'est pas fort. Il y a beaucoup de faiblesses donc, qui font que la transmission se passe même dans les formations sanitaires. Donc, nous allons continuer donc, à mettre l'accent sur le renforcement des capacités aussi bien pour la communauté que pour les travailleurs de santé pour pouvoir donc, prévenir les transmissions secondaires, détecter rapidement les cas et pouvoir les isoler, les traiter. Continuer la stratégie de vaccination aussi autour des cas pour rompre la transmission.
Plus de 1700 morts l'été dernier, c'est quand même trop.
Même un mort, c'est trop. Donc, notre approche est de pouvoir sauver le maximum de vies possible. Donc, vous parlez de 1600 morts, mais aujourd'hui, il y a plus de morts même pour la rougeole, une maladie qu'on peut prévenir totalement ici au Congo et dans d'autres pays, plus de morts pour le choléra. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la fatalité. Nous faisons tout pour prévenir ces décès, même un décès est un décès de plus.
Le docteur Ibrahima Sossé-Fall, directeur adjoint de l'OMS en charge de la réponse aux urgences.
Et Kiabadou avec vous et on se retrouve à 18h en temps universel dans votre émission interactive à votre avis. Le thème ce soir, les secours maritimes espagnols et marocains ont récupéré en mer 277 migrants subsahariens dans la nuit de mardi à mercredi, dont une femme décédée sur l'une des embarcations de fortune. Quelle solution selon vous pour éviter l'immigration clandestine? Qu'est-ce qui les fait partir et que faire pour les faire rester dans leur pays respectif? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure.
Mobilisation contre Ebola, RDC, mobilisation contre la tuberculose au Nigeria. Des experts réunis depuis hier à Abuja se penchent sur la question. Au cœur des échanges, la question des moyens financiers. Car le pays a besoin d'environ 336 millions de dollars pour relever les défis de la tuberculose d'ici 2020. Reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Le Nigeria fait partie des 14 pays les plus affectés par la tuberculose. Dr Uroke Uchoke du programme national de contrôle de la tuberculose au ministère fédéral de la santé.
La tuberculose est un problème majeur de santé au Nigeria. Nous occupons le premier rang en Afrique et le sixième rang au niveau mondial parmi les pays les plus touchés. Et nous sommes aussi parmi les 30 pays ayant le plus grand fardeau de la tuberculose au monde.
La lutte contre la maladie a été freinée ces dernières années par ce qu'on appelle la tuberculose pharmacorésistante et par l'épidémie du VIH-Sida. On estime que 418 000 personnes au Nigeria avaient la tuberculose en 2018. Lagos et Kano, les états les plus peuplés du pays, sont les zones les plus affectées par la maladie. Les facteurs de la propagation de la maladie sont multiples. Dr Stephen John est le CEO et fondateur de Jana Health Foundation.
Il y a de nombreux facteurs, mais les plus importants sont tout d'abord l'accès aux services. Les infrastructures ne répondent pas aux besoins en jeu. Les gens doivent encore parcourir de longues distances et surtout ceux des communautés et des zones rurales. Il y a aussi d'autres groupes de personnes dans les zones considérées comme étant des zones difficiles à atteindre. Nous avons des populations nomades et nous avons en outre des communautés d'accueil, des personnes déplacées.
Les contraintes de financement sont restées le principal défi pour lutter contre la maladie. Toutes les parties prenantes présentes pour discuter de la manière de mettre fin à la tuberculose au Nigeria attendent beaucoup de cette rencontre. Dr Lucie Ebele est pédiatre et consultante de l'Université de Port Harcourt dans le site pétrolifère du pays.
Après cette conférence, j'espère que les recommandations seront soumises aux acteurs politiques et à nos leaders et que ces recommandations soient mises en application parce que ça ne suffit pas de nous réunir ici à Abuja pour parler de la tuberculose sans prendre des décisions concrètes pour exécuter les recommandations.
Créé en 2007, le partenariat Halte à la tuberculose Nigeria pour sensibiliser le public à la tuberculose, intensifier le plaidoyer et aider à mobiliser des ressources supplémentaires, manque de moyens pour faire face à la crise. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
En Tunisie, le nombre de migrants arrivés de Libye par la frontière terrestre a plus que doublé au premier semestre 2019, selon les chiffres de l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux. Sur un total de 1008 candidats, 90% sont originaires d'Afrique subsaharienne. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint Lorena Lando, chef de mission en Tunisie de l'Organisation internationale pour les migrations.
Nous, on a plus ou moins les mêmes chiffres. C'est vrai que si l'année dernière, il y a eu à peu près 700 qui sont arrivés au cours de toute l'année, cette année, on est arrivé à 840 jusqu'à là. Donc, c'est plus, mais on n'est pas dans des chiffres alarmants dans le sens des milliers de personnes qui sont en train de passer.
Alors, quelles sont les conséquences concrètement sur une organisation comme la vôtre pour l'OIM?
Bien sûr que nous, on aide d'appui, à la Tunisie, en travaillant aussi en unité avec des réponses qui sont aussi humanitaires par la société civile tunisienne. Donc, la souveraineté de l'État reste, mais est-ce qu'ils ont les moyens et les structures pour gérer une arrivée supplémentaire des migrants. Aujourd'hui, on peut arriver à gérer, donc pour fournir l'assistance humanitaire nécessaire. Il y en a plusieurs parmi ces gens qui fuient la Libye, qui, s'ils ne sont pas des demandeurs d'asile, ils sont assistés, bien sûr, aussi pour ceux qui désirent de pouvoir rentrer au pays d'origine avec un retour, une réintégration, une fois au pays d'origine. Il faut aussi penser qu'il y a aussi un autre défi, c'est plutôt les sauvetages en mer. Avec une situation en Libye qui devient plus critique, et là, on est à la chiffre de 483 personnes, donc à peu près la moitié par rapport aux cas qui passent la frontière terrestre.
La situation des migrants en Libye est très difficile. Avez-vous constaté une amélioration cette année?
Ce qu'on a vu, c'est vrai que cette année, il y avait plus de cas de personnes qui viennent des pays qui ont un conflit donc au pays d'origine. Donc on a Érythréens, Soudanais, Somaliens. Donc c'est vraiment des personnes qui ont aussi une difficulté de trouver une solution et dire « je peux rentrer au pays ». L'assistance humanitaire est là, en coordination, mais ce n'est pas évident parce que l'hébergement reste un des défis les plus importants de l'hébergement d'urgence humanitaire pour ces gens-là. La Tunisie n'a pas de centre, les gens sont libres, donc ce sont des centres gérés par le Croissant Rouge ou par l'OIM, mais il n'y a pas de facilité bêtises qui sont gérées par les autorités tunisiennes. On a demandé au système des Nations Unies, donc ACR et OIM, de mettre à jour le plan de contingence au cas d'influx massif. Mais on n'est pas du tout à ce niveau-là. Mais la préparation au cas de mouvements importants des personnes de la Libye, c'est important de le réfléchir et quels sont les moyens disponibles et qu'est-ce qu'on doit faire pour répondre aux besoins des personnes qui fuient la Libye.
Lorena Lando, chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations en Tunisie. À présent, notre série sur le 50e anniversaire de la mission Apollo 11 sur la Lune, un sujet qui est également évoqué au Cameroun, surtout en milieu jeune. Des jeunes qui ont des opinions bien divergentes sur le bien fondé d'une telle opération. Voyons cela avec Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé.
La mission spatiale américaine sur la Lune, il y a 50 ans, est loin d'être connue par certains jeunes au Cameroun, nés bien longtemps après cet événement.
Je ne sais pas si je dois dire l'avion ou la fusée, je ne sais pas, à atterrir sur la Lune. Et je sais que la personne aux commandes, c'était Neil Armstrong.
Vous avez déjà entendu parler d'Apollo 11?
Non.
Vous avez entendu parler de Neil Armstrong?
Neil Armstrong, ça me dit quelque chose.
Est-ce que vous savez qu'un jour un homme est monté à la Lune?
Oui, j'ai entendu.
Vous connaissez sa nationalité?
Non, monsieur.
Mais tous les jeunes Camerounais ne sont pas ignorants de ce fait historique.
À l'école, on a entendu parler de la mission Apollo 11 avec Neil Armstrong, un de ses premiers hommes à mettre ses pieds sur la Lune.
C'est à partir des connaissances d'ivresse. Depuis l'école primaire, on nous a toujours dit qu'un homme a eu à atterrir sur la Lune et il s'appelait Neil Armstrong.
J'ai vu tout un documentaire sur cette appellation d'Apollo 11 qui était une navette spatiale qui était allée à la Lune pour la première fois avec des astronautes, quelque chose qui a été célébré et regardé dans tout le monde entier.
Les jeunes Camerounais sont assez partagés sur la nécessité de financer une telle opération à hauteur de centaines de milliards de dollars il y a 50 ans.
Lorsqu'on est une nation comme celle des États-Unis, on ne prend pas une telle initiative pour rien. C'est beaucoup plus une volonté de domination et de prestance de la puissance américaine.
Ce ne sont pas des dépenses de prestige. Moi, je pense que ce sont des dépenses indispensables parce que c'est pour des recherches.
Je ne comprends pas pourquoi investir pour envoyer quelqu'un à la Lune. Je ne comprends pas trop ce qui nous ramènera après avoir investi comme ça, comme retour financier.
50 ans après la première mission de l'homme sur la Lune, le Cameroun n'a aucune école d'astronomie. Un regret pour certains jeunes Camerounais.
Ça me gêne vraiment que le gouvernement en place n'est pas réfléchi dans ce sens. Ça me ferait plaisir de savoir que nous également, nous pouvons aller à la Lune comme les autres.
On ne peut pas se lever un bon matin et dire que nous allons ouvrir une école d'astronomie. C'est des colossales sommes d'argent.
Quand vous dites un Africain à la Lune, ça me fait rire. Un Africain à la Lune alors qu'un Africain n'arrive pas à manger. Un Africain à la Lune alors qu'il n'arrive, il n'est pas sûr si quand il va rentrer, il aura une eau potable.
Pourtant, les Africains se sont toujours intéressés à l'espace. Le Camerounais Ernest Simon est cité comme le premier Africain à intégrer la National Aeronautics and Space Administration. Il a été deux fois finaliste du programme des astronautes de la NASA en 1994 et en 1996. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous dans Washington Forum. Il y a 50 ans, cette semaine, trois astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, entraient dans l'histoire en se posant sur la Lune. Un événement majeur dans la conquête spatiale qui évoluera de la rivalité entre les États-Unis et l'ex-Union soviétique à la possibilité d'envoyer des touristes dans l'espace dans quelques années, en passant par le lancement de milliers de satellites depuis par plusieurs pays. L'Afrique, elle, essaie de prendre le train en marche. Nous allons évoquer tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, dans Washington Forum. Vous pouvez réagir sur la page Facebook de VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Georges Léonard Sagno. John Lyndon était à la présentation de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Et nous espérons que la lune de miel entre vous, auditeurs de VOA Afrique, et nous se poursuivra. Je vous laisse en compagnie de Henri Francis pour d'autres informations. Bonsoir.
VOA Afrique.